Ravi de vous retrouver pour la 8e saison d'Affaires Sensibles, 857e numéro aujourd'hui, et cap sur l'Afghanistan à travers l'histoire d'une de ses figures emblématiques, peut-être la plus emblématique d'ailleurs, le commandant Massoud, assassiné par Al-Qaïda à la veille du 11 septembre 2001, le 9 plus précisément, les deux événements étant bien sûr intimement liés. On le voit aujourd'hui même avec le retour des talibans à Kaboul, le destin brisé de Massoud est aussi celui de son pays. On se souvient tous du visage de cet homme coiffé de son béret traditionnel afghan, cette sorte de Che Guevara d'Orient dont on prenait des nouvelles régulièrement, ici, en France, comme ailleurs, grâce à nos grands reporters et nos humanitaires, devenus des enfants du Panjshir, le fief de Massoud. Son assassinat s'inscrit clairement comme un point majeur de notre histoire contemporaine. L'avènement du terrorisme islamiste, celui du 11 septembre à New York, des attentats à Londres, Madrid, par Al-Qaïda, Paris bien sûr, sous la houlette de Daesh, contre des occidentaux, mais aussi contre des musulmans, premières victimes de ces fous de Dieu. En Afghanistan pour les talibans, en Irak, en Syrie notamment pour Daesh, mais aussi au Sahel, au Yémen, au Mali et dans d'autres pays. Chaque faction terroriste répondant à des noms différents, comme Akmi ou Boko Haram en Afrique, par exemple. Et ce n'était certainement pas le dessein de Massoud. Notre invité aujourd'hui, Bruno Philippe, journaliste, grand reporter pour le journal Le Monde. Il a couvert les événements en Afghanistan durant les dernières années du djihad anti-soviétique, puis la guerre civile, l'arrivée des talibans et surtout, il a rencontré Massoud 3 fois. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Koyen Nguyen, Jérôme Chélius et Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
le 16 septembre 2001, alors que nous avons encore les yeux embrumés par la poussière des tours du World Trade Center, de l'autre côté du monde, au nord de l'Afghanistan, un peuple enterre l'un de ses héros, Ahmad Shah Massoud. Depuis la veille, des milliers d'Afghans ont pris la route des chemins montagneux de la vallée du Panjshir pour atteindre le petit bourg de Jangalak, là où il est né 48 ans plus tôt. Ils sont plus de 10 000 Afghans, la plupart combattants, venus saluer une dernière fois leur chef. Avec lui, ils ont vaincu les soviétiques, mais ils ont raté l'unification du pays, avant d'être poussés à quitter Kaboul, chassés par les talibans. Il y a là des compagnons d'un jour, des amis toujours, comme Abdullah Abdullah, l'un de ses plus proches et ministre des Affaires étrangères du gouvernement en exil, mais aussi ses gardes du corps, ses conseillers ou encore ses caméramans, comme Youssef Ranessar, qui caméra au point l'accompagnait sur le front et lors de ses voyages. Ce jour-là, il filme pour la mémoire de son pays. Très peu de journalistes sont présents, il y a juste une équipe de télévision iranienne, pays frontalier. En ce jour de deuil, beaucoup de personnalités politiques ont fait le déplacement. Sur le char où est placé le cercueil, on repère le président du gouvernement en exil, Burhanuddin Rabbani, le successeur de Massoud à la tête des forces de l'Alliance du Nord, Mohamed Fain Khan, et différents généraux, conseillers, ambassadeurs. Mais celui sur lequel tous les regards sont tournés, c'est Ahmad, le fils de Massoud. Il a une dizaine d'années, déjà tout d'un grand. Les mains dans le dos, la tête haute, il répond aux questions des journalistes iraniens. Il parle du combat de son père, de son souvenir qui ne le quittera pas. Autour de lui, les grands généraux pleurent, emportés par l'émotion et par l'écho de cette voix déjà martiale et au travers de laquelle il pense retrouver un instant celle du commandant défunt. Vers 10h, la cérémonie débute. 3 hélicoptères, vestiges de la lutte contre les soviétiques, atterrissent au milieu de la plaine. Alors on sort le cercueil, on le recouvre du drapeau vert de l'islam. Des fleurs sont jetées tout au long du trajet qui le transporte vers son mausolée. La marche funèbre est ponctuée de cris et de larmes. Les femmes sont absentes de la cérémonie. Elles regardent de loin, d'un peu plus haut sur la colline. Elles regardent la marche de leurs hommes. Leur deuil est secret comme leurs larmes qu'on imagine derrière leur voile. Dans le brouhaha des chars et des voitures qui convergent vers le haut de la colline où sera enterré Massoud, on entend parfois des noms de pays et d'hommes. Pakistan, Taliban, puis un nom, Oussama Ben Laden. Ces mêmes patronymes sont écrits sur les quelques banderoles que certains portent durant la cérémonie. Au début de l'après-midi, le cercueil arrive enfin en haut de la colline, au lieu du mausolée. Le visage de Massoud est dévoilé à la foule, puis recouvert d'un linceul blanc.
Oh.
Allah est grand, mais c'est en son nom que d'autres revendiquent la mort du commandant. Alors, qui a tué le commandant Massoud et pourquoi le 9 septembre 2001 ? Comment se sont déroulés ces derniers jours ? De la terre de Massoud, l'Afghanistan n'a beaucoup lu d'histoires, de périples d'aventuriers, de contes et de légendes. Des écrivains et des journalistes ont pris un jour cette route de la soie qui passe par ce pays. Dans les écrits de ces voyageurs, on découvre une terre des mille et une nuits et les images de chaos que nous connaissons aujourd'hui. Depuis bientôt 50 ans, l'Afghanistan n'a pas connu la paix. La guerre y a élu domicile et c'est par elle que l'on suit à distance la vie de ce pays dans nos colonnes de journaux. Comme ce 27 décembre 1979, quand les chars soviétiques franchissent la frontière afghane pour s'emparer de Kaboul. Ils prennent le pouvoir et installent un président de circonstance et d'obéissance. C'est durant ces années-là, en 1982, que l'on découvre pour la première fois sur Antenne 2, au micro de Christophe de Ponfilly, un jeune combattant afghan, Moudjahidine d'Orient. Il a alors 28 ans. Il s'appelle Massoud. Il porte déjà son béret traditionnel afghan, le visage fin entouré d'une petite barbe. Derrière lui, on observe des combattants qui s'entraînent dans ce camp, dernière étape avant de prendre le chemin de la guerre contre les soviétiques. Assis sur le sol, Massoud parle de son combat, de son djihad, des avantages du terrain contre l'armement lourd et peu approprié des soldats soviétiques.
Mes combattants, tous, et sont, ils aiment faire la guerre avec l'ennemi pour gagner le djihad. Ils ont réfléchi comme ça, ils ont dit que nous, si nous mourons, nous gagnons Jannat.
La djihad ?
La djihad.
C'est-à-dire la guerre sainte.
Jannat. Jannat. Le jardin de Dieu. Tout. La première chose, ça, c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça, c'est que nous, Mujahid, tous sont très courageux. Oui. Et ils sont. Maintenant, pour la guerre, ils sont complets. Comment on dit en français ? Complets.
Ils sont prêts ?
Ils sont prêts pour commencer la guerre, pour continuer la guerre.
Ainsi est né le lion du Panjshir. Christophe de Ponfilly écrira sa légende, plume et caméra à la main, pendant plus de 20 ans. Aux côtés des Moudjahidines de Massoud, d'autres aventuriers apparaissent dans les films et les récits de ces années de lutte. Ils sont souvent jeunes, insouciants hommes et femmes qui risquent leur vie pour en sauver d'autres. Ces nouveaux héros s'appellent Médecins du Monde ou Sans Frontières, humanitaires, souvent accompagnés de journalistes et autres baroudeurs qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est grâce à eux aussi, grâce à ces French Doctors, comme on les appelle en Amérique, que l'histoire de l'Afghanistan nous est parvenue. En 10 ans de conflit contre l'URSS, ils sont les témoins de la destruction du territoire et du bouleversement des rapports de force entre les ethnies. Après le départ des soviétiques, l'Alliance du Nord, une coalition entre différents partis et ethnies, n'arrive pas à mettre en place une administration crédible et pérenne. Alors une guerre civile éclate. Les humanitaires restent présents des deux côtés, soignent les civils étouffés par la guerre. Et le 27 septembre 1996, après 4 ans de guerre civile, on apprend sur les ondes de France Inter la victoire des fondamentalistes musulmans, les talibans.
Le calme est revenu tôt ce matin à Kaboul, après 3 jours de combat entre l'armée gouvernementale et les milices des talibans. La capitale afghane est passée sous contrôle des islamistes, dont la première préoccupation a été de décréter l'instauration d'un État islamique. Et leur premier acte a été d'exécuter l'ancien président communiste afghan Najibullah, qui était réfugié depuis 4 ans dans un bâtiment des Nations Unies. Il a été pendu à un réverbère avec au moins un de ses collaborateurs. Le témoignage d'Éric Gazo, responsable de Médecins Sans Frontières à Kaboul.
Il y a eu des combats toute la nuit, des combats de rue et des tirs de roquettes dans Kaboul et à la périphérie de Kaboul, des tirs de canon, des chars. Depuis 2-3 heures, la situation est revenue au calme, c'est-à-dire qu'en fait, les talibans contrôlent maintenant la ville et dans la rue, il n'y a aucun problème, on peut se promener en sécurité. Hier, je discutais avec Zavan, ils avaient peur que tout dégénère, que ce soit la guerre dans Kaboul et tout, et là, c'est le soulagement, les choses sont stabilisées assez rapidement, les gens sont rassurés parce que c'est le retour à la paix, il n'y a plus de combats. Et ils sont rassurés par l'attitude des talibans. C'est vraiment le soulagement.
Ce soulagement dont témoigne ce médecin de MSF ne sera que de courte durée. La vie sous le règne des talibans, en vérité, ces hommes coiffés, habillés de noir, c'est comme une longue nuit qui tombe sur les populations, quelque chose qui a à voir avec les ténèbres. Elle touche d'abord les femmes. On les recouvre entièrement d'un tchadri, où la lumière ne passe qu'à travers une petite grille, une sorte de meurtrière devant les yeux. On leur interdit de travailler, chacun de leurs déplacements doit être accompagné par un homme de leur famille. Les écoles pour les filles sont fermées, comme les cinémas et tous les établissements où l'image et la musique régnaient auparavant. Oui, oui, on interdit la musique, signe d'une lourde pathologie chez ces fanatiques qui tiennent désormais l'Afghanistan. Le diversement est banni, danser est condamné. Les hommes aussi doivent suivre des règles strictes, comme se couvrir la tête, avoir les cheveux longs, porter une barbe et être présent lors des prières. Au sein de ces villes et de ces villages, la résistance est souvent passive. Certains obtiennent quelques cassettes audio, alors ils écoutent, blottis et secrètement, les quelques paroles ou notes d'une chanson. D'autres regardent en cachette les images du dernier film à succès des pays voisins ou ceux venus d'Amérique ou d'Europe. S'ils sont dénoncés ou s'ils s'écartent de la loi, ils subissent la sentence du fouet et parfois la mort. Au-delà de la frontière, on s'intéresse alors assez peu à ce pays revenu aux temps anciens sous des lois qu'on imagine celles de Dieu. La mort devient un spectacle. On remplit les stades, on ramène le voleur du jour, on exalte la foule, puis on lui coupe la main sous les applaudissements. Pas d'image, pas de journalistes, caméras interdites, c'est un permis de tuer. Il faut attendre l'année 1998 pour que l'Afghanistan revienne sur le devant de la scène et de nos journaux. Cette année-là, au début du mois d'août, deux ambassades américaines sont touchées par des attentats au Kenya et en Tanzanie. Deux semaines plus tard, des missiles de croisière s'abattent sur des terres contrôlées par l'armée talibane. Bill Clinton explique les raisons de cette attaque à la télévision.
Notre cible était le terrorisme. Notre mission était claire. Frapper les réseaux fondés et affiliés par Oussama Ben Laden, qui est peut-être le principal organisateur et financier du terrorisme international.
C'est l'une des premières fois qu'on entend ce nom, Oussama Ben Laden. Les Afghans, eux, le connaissent tous. Du temps des soviétiques, il combat avec les Moudjahidines afghans et organise des camps d'entraînement. De retour en 1996, il se lie d'amitié avec le mollah Omar, le chef taliban. Il finance sur ses terres des camps d'entraînement. Et c'est dans l'un de ces camps, près de Khost, où sont formés des Arabes, des Pakistanais et d'autres étrangers, que les 70 missiles de croisière américains s'abattent le 20 août 1998. Oussama Ben Laden en sort indemne et l'Afghanistan sombre dans un silence radio jusqu'en 2001. Au début de cette année-là, des statues sont dans le collimateur du pouvoir taliban. L'objet du scandale est un lieu archéologique où les bouddhas géants, sculptés dans la pierre à plus de 2000 mètres d'altitude, dominent les terres vertes et riches des plaines de Bamiyan. Achevées aux alentours du 5e siècle, elles sont l'une des traces de l'histoire afghane, forgée au carrefour des routes et des civilisations. À la fin du mois de février 2001, on apprend par la voix de Jean-Yves Berthaud, chargé d'affaires français pour l'Afghanistan, que le mollah Omar, chef des talibans, a décrété leur destruction.
Ce qui est nouveau, c'est que donc hier soir, le décret a été émis par le mollah Omar et que par conséquent, à tout moment, elles peuvent être détruites. Et donc, c'est une lecture très restrictive de sa religion qui lui fait penser que ces statues sont des idoles et que par conséquent, en elles-mêmes, elles représentent quelque chose de dangereux pour l'islam, qui est la seule religion acceptable et qui refuse naturellement le culte des idoles.
Que peuvent menacer des statues? Rien. Sinon la folie de ces talibans au pouvoir. Par un acte d'acculturation qui va révolter le monde entier, les premiers bombardements s'abattent sur les statues.
Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Minutieusement, les hommes du mollah Omar, ombre enveloppée de noir, visent au mortier la montagne où sont logées ces sculptures. Jour après jour, des morceaux de l'histoire afghane s'effondrent à l'ombre des caméras, des diplomates qui n'arrivent pas à interrompre cette folie. L'obscurantisme, c'est aussi cela, la destruction d'images, de symboles, de la mémoire d'un peuple, d'un territoire qu'on décide de recouvrir du jour au lendemain d'une loi divine sans trace du passé où seule la foi dicte les lignes de l'histoire. Quelques semaines plus tard, en avril 2001, Massoud est en route pour la France. Un voyage de deux jours après l'invitation du Parlement européen. Lorsqu'il part, Massoud laisse à ses hommes une situation critique. À l'automne, il a perdu Talokan, son dernier bastion, avec un petit aéroport. Son voyage en France est l'une de ses dernières chances pour reprendre la main.
Tout lui, tout brille, mais rien ne brûle. Tout brille, tout scintille, mais rien ne se consume. C'est comme ça, c'est ainsi. Tout sans vie, tout un prix, tout se calcule. Jouer des points et beaucoup moins des virgules. Tu ne m'as peut-être pas compris, tant pis je récapitule. Tout brille, tout scintille, même au crépuscule. Même l'envie, parfois son vie, ça en devient ridicule. Bien sûr, on peut en rire. Tout a un prix, tout se ternit, tout se dit si.
Nous sommes le 4 avril 2001. Le commandant Massoud est en France, accompagné de ses plus proches conseillers, dont Abdullah Abdullah, ministre des Affaires étrangères afghan en exil, et son ami Massoud Khalili, ambassadeur à New Delhi. Massoud est l'attraction du jour. Il partage un petit déjeuner avec le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, puis rencontre les présidents des assemblées et s'exprime enfin lors d'une importante conférence de presse. Son premier message est destiné au président américain, George Bush.
Comme vous le savez, jusqu'à ce jour, les Américains n'ont pas une politique claire à ce sujet. Mon message au président Bush est le suivant. S'il ne s'intéresse pas à la paix en Afghanistan, s'il n'aide pas le peuple afghan pour parvenir à son objectif de paix, les problèmes auxquels nous faisons face seront ceux auxquels les Américains et le reste du monde sera obligé de faire face.
Ensuite, le lion du Panjshir réaffirme son intention de poursuivre son combat malgré l'ingérence des Pakistans.
حرکت‌های مردمی در مناطق مختلف مخصوصاً در مناطق پشتونشین خواهد بود.
Vu que la nature de l'ingérence pakistanaise et le comportement injuste des talibans se manifeste de plus en plus, la résistance s'organise davantage au sein de tout le peuple afghan, de toutes les ethnies, pashtun, azara, ozbak, tajik. Dans un avenir proche, vous serez témoin des mouvements populaires, y compris dans les zones pachtounes, contre les talibans.
Le lendemain, il est à Strasbourg, accueilli en personne par la présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine. Nouvelle conférence de presse avec les différents correspondants internationaux. Il réaffirme une nouvelle fois le risque de laisser son pays entre les mains des talibans. Le soutien espéré n'est que de façade. Les journalistes comme les politiques sont heureux d'accueillir cet Afghan aux allures de Che Guevara et d'entendre ses histoires, mais ils ne saisissent pas les menaces. L'Afghanistan apparaît encore comme une guérilla, une de plus, loin de Paris, loin de l'Europe. Et puis ces fous de Dieu, oui, ils sont fous, mais ils sont loin, pas dangereux. Pourtant, dans quelques mois, ils embraseront le monde. Grâce à son voyage en Europe, Massoud intrigue de nouveau. Il reçoit beaucoup de sollicitations d'interviews. Depuis de nombreuses années, le commandant utilise parfaitement la médiatisation et l'art de l'image dans son combat. C'est une arme comme une autre. Pendant l'été 2001, il donne une interview. Ce sera sa dernière. Extrait, puisé dans un épisode de la série documentaire Mystères d'archives de Serge Vialet. Extrait dans lequel Massoud répond à une question, justement, sur Oussama Ben Laden.
En Afghanistan, Oussama Ben Laden a commis de nombreux crimes. Lui et les gens qui lui sont assimilés ont tué des milliers d'Afghans. Ils ont tué, brûlé des maisons, détruit des récoltes. Je pense qu'Oussama doit être jugé en Afghanistan par les Afghans pour les crimes qu'il a commis ici.
Au début du mois d'août 2001, des journalistes venus du Sud souhaitent interviewer le commandant. Pour rentrer en Afghanistan, il y a deux routes possibles. Pour rencontrer les hommes de Massoud, il faut passer par le nord, par Dushanbe, au Tadjikistan. Là-bas, on rencontre des émissaires. S'ils acceptent, c'est le départ à bord d'hélicoptères dérobés aux soviétiques du temps d'occupation, en aussi bon état que la résistance, c'est-à-dire fracturé, bricolé, mais en marche. Si vous souhaitez aller à Kaboul, il faut passer par le Pakistan et Jalalabad, unique porte d'entrée pour rejoindre les talibans. C'est par cette ville et le sud que deux journalistes passent. Sur leur papier d'identité, on peut lire les noms de Kerim Touzani et Kassem Bakalid. Ils sont envoyés par une chaîne de télévision basée aux Émirats. Dans leur sacoche, une caméra, une simple lettre de recommandation signée par un centre d'observation islamique basé à Londres. Leurs passeports proviennent de l'ambassade du Pakistan. Ils passent checkpoint après checkpoint sans lever aucun soupçon. Pourtant, les Arabes sont rares dans le coin. Les Arabes en Afghanistan sont souvent synonymes de soldats étrangers, ceux de Ben Laden, qui se battent aux côtés des talibans. Aucune fouille intensive ou interrogatoire sur leur venue, leur motivation, leur source. Ils rencontrent un premier dignitaire, Abdul Rasouf Seyaf, chef fondamentaliste rallié à Massoud. Puis c'est le président Rabbani qui les accueille, accepte de répondre à leurs questions. À la fin du mois d'août, ils atteignent la guest house de Salaga, non loin d'Ashtaneh, où on loge les invités, les journalistes de Massoud. Situé au cœur du Panjshir, l'endroit est paisible. Les deux journalistes sont assez discrets, ils restent plusieurs jours et rencontrent d'autres convives, dont des journalistes français, Françoise Causse et Brigitte Brault. Après un premier départ manqué à bord d'un hélicoptère avec Massoud, les deux hommes débarquent à Khodja Bahauddin, la base arrière du Front Uni, fief administratif où sont localisés certains bureaux et ministères. Le 9 septembre, Massoud accepte enfin de le recevoir, quelques minutes avant de reprendre la tournée des différents fronts. Les deux journalistes sont amenés dans la pièce où se trouve déjà le commandant Massoud et Massoud Khalili qui jouera le rôle de traducteur. Après avoir demandé le thème des différentes questions, dont la plupart concernent Oussama Ben Laden, Massoud donne son accord pour débuter l'interview. La suite, c'est Khalili, témoin de la scène donc, qui la raconte dans le documentaire « Qui a tué Massoud ?» de Didier Martini.
Il a dit au caméraman « Allez-y, allumez la caméra ». Alors, il l'a allumé. Très sûr de lui. Je ne peux pas oublier son visage et la façon qu'il avait de me regarder. Il m'a lancé un regard empoisonné que je n'oublierai jamais. Peut-être qu'il voulait dire « Il ne savait pas que vous allez mourir ». J'ai traduit pour le commandant. Il demande quelle est la situation en Afghanistan. Au moment même où j'ai dit « quel » en persan, il y a eu un souffle. Je n'ai pas entendu un son juste là. Et tout est comme rentré en moi. Tout. Le son, l'odeur, tout est entré en moi.
Les deux hommes sont de faux journalistes. Ils se prénomment en réalité Bouhari El Ouaer et Abdessattar Darman. Ils sont originaires de Tunisie et vivent en Belgique. Ils appartiennent à Al-Qaïda. Après l'explosion, on ne retrouve que les deux jambes du caméraman Boiré El-Aouer. Les explosifs étaient scotchés autour de son ventre. Son complice, Abdessattar Darman, s'en sort indemne et prend la fuite. Il est vite rattrapé. Puis, Massoud, lui, est touché au visage. Il est transporté en jeep vers un hélicoptère qui l'emporte vers l'hôpital de Farkar. Dans l'appareil, il est encore en vie. Les combattants n'en sauront pas plus pour l'instant. Pourtant, on s'interroge sur place, comme sur les ondes internationales. Massoud est-il mort ? Le 11 septembre, au journal du matin, rien n'est confirmé par les proches du commandant. Et c'est ce qu'annonce Olivier Weber ce jour-là sur les ondes de France Inter.
D'après les proches de Massoud, son porte-parole en particulier, le docteur Abdullah, qui est le ministre des Affaires étrangères de Massoud, Massoud est bien en vie, qu'il n'a été que légèrement blessé lors de cet attentat. Donc, un de ses conseillers est mort, deux autres blessés, mais Massoud n'est blessé qu'à la jambe et qu'au bras, et légèrement, mais très légèrement au visage. Le conseiller militaire, qui s'appelle Registani, donc a été chercher Massoud à la frontière, puisque Massoud a été blessé à Khojabordin, qui est un camp de réfugiés, aussi une base arrière de Massoud en Afghanistan, mais non loin de la frontière tadjik. Et cet attaché militaire a été le chercher en hélicoptère, a passé 10 heures avec lui, et donc a vu Massoud transmettre lui-même des ordres au général Fahim, qui est son adjoint, donc qui est son actuel successeur. Et donc, on ne sait pas s'il est tombé inconscient ou pas, mais ces sources-là, afghanes, sa garde rapprochée, disent qu'il n'est pas dans le coma et qu'il est actuellement simplement traité de l'autre côté de la frontière, au Tadjikistan, où je suis actuellement.
Annoncer la mort de Massoud, c'est tout simplement donner le feu vert aux talibans pour une attaque de grande envergure. Les responsables du Front Uni se refusent donc d'officialiser la mort de leur chef charismatique sans consolider les lignes de front et préparer la succession. Ce 11 septembre, comme partout dans le monde, ils entendent les nouvelles venues d'Amérique. Deux avions s'écrasent sur les tours du World Trade Center, un troisième sur le Pentagone, un quatrième tombe en Pennsylvanie. Dans la vallée du Panjshir, aucun doute, l'homme responsable des attentats, Edmine Massoud et des États-Unis, ne peut être Oussama Ben Laden. Le 15 septembre 2001, quatre ans après Bill Clinton, George Bush nomme lui aussi Oussama Ben Laden comme le principal suspect. Le lendemain, Massoud est enterré par les siens à Jangalak. Le monde redécouvre alors les messages du commandant Massoud lors de ses différentes interviews, les menaces qui pèsent sur le monde, le danger Ben Laden, la dangerosité du régime taliban, le rôle du Pakistan. Kaboul aussi sort de l'ombre. Des images qu'on pensait inexistantes apparaissent enfin, celles des exécutions, de la ségrégation contre les femmes, des coups de fouet dans la rue, de l'obscurantisme absolu. La communauté internationale également redécouvre ces images. Le 21 septembre 2001, George Bush prend la parole au Congrès, puis menace directement le régime taliban.
Ce soir, nous exigeons des talibans qu'ils nous livrent immédiatement les chefs d'Al-Qaïda cachés dans leur pays. Ces demandes ne sont pas ouvertes à la négociation ou à la discussion. Les talibans doivent agir et agir immédiatement. Ils livreront les terroristes ou bien ils partageront leur sort.
Le 7 octobre 2001, l'Amérique et ses alliés lancent une vaste offensive contre les forces talibanes suspectées de protéger parmi ses rangs Oussama Ben Laden. Il sera tué 10 ans plus tard lors d'un raid en 2011. Ben Laden était caché au Pakistan. Aujourd'hui, l'Afghanistan n'est toujours pas en paix. Retrouverons-nous encore un jour l'Afghanistan de nos héros, ceux des mille et une nuits, des cavaliers de Joseph Kessel, des carnets de voyage, des aventuriers, des poètes, du vin, des jardins cachés, de la paix? Massoud, lui, est devenu une idole pour une partie des Afghans. On dessine son visage sur les murs, un visage fin, une barbe légère et un béret traditionnel. Il était Mujahideen, lisait le Coran, priait Allah, tout comme les fanatiques qui l'ont tué.
Tired.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le destin de Massoud et de l'Afghanistan, dont nous allons parler avec notre invité Bruno Philippe. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, grand reporter pour le journal Le Monde, vous avez couvert les événements en Afghanistan durant les dernières années du djihad antisoviétique, puis la guerre civile, l'arrivée des talibans, et surtout vous avez rencontré Massoud trois fois. Votre dernier livre n'est pas spécifiquement consacré à l'Afghanistan, il s'appelle L'Archipel des Ombres. Des Ombres, c'est un voyage en Indonésie, premier pays musulman du monde, je crois, en tant qu'en nombre de croyants et d'habitants. Et c'est aux éditions des Équateurs, on en dira un mot à la fin de l'interview. Que représente d'abord et avant tout Massoud dans l'histoire de l'Afghanistan? Mais je précise ma question, pour les Afghans?
Alors, ça dépend quels Afghans. Parce que Massoud avait un projet national, c'était un Tadjik, donc c'est une ethnie non pas minoritaire, mais la grande ethnie afghane, c'est l'ethnie Pashtoun, à peu près, disons, 40% de la population. On n'a pas de statistiques très fiables. Et les Tadjiks, c'est une ethnie d'un peu moins importante, mais quand même tout à fait essentielle en Afghanistan, de langue persane. Donc, pour les Tadjiks, Massoud est un héros. Pour les libéraux, je dirais, Massoud incarne une figure tout à fait essentielle. D'abord, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du djihad, de la guerre sainte antisoviétique, dont il fut un des héros les plus valeureux et aussi les plus médiatisés à l'étranger. Et il est aussi, bien sûr, le symbole d'un pouvoir moudjahidine anticommuniste qui s'établit en 92 après la chute du dernier régime communiste. Et ensuite, évidemment, le symbole de la lutte contre les talibans et l'obscurantisme.
Alors, on l'a idéalisé en Occident. Vous trouvez qu'on l'a idéalisé ou qu'on l'a jugé à sa vraie valeur, en tout cas par rapport à nos valeurs occidentales?
Je pense les deux. Il y a, vous le rappeliez aussi, ce personnage romantique, ce regard d'aigle, ce nez busqué, ce pas cool, ce bonnet de laine roulé, incliné élégamment sur le crâne, un personnage guévariste, vous l'avez dit aussi.
Voilà,
et puis un personnage romantique, un personnage de légende, en fait. Il y a ça. Et puis, oui, on l'a idéalisé, notamment en France.
Christophe de Beauvie, grand reporter, hein, bien œuvré dans ça, je crois.
Tout à fait, pas que de Bonfilly, je pense qu'il y a... Bon, alors d'abord, on sait qu'il avait étudié le français au lycée Stiklal, le lycée français de Kaboul, donc il parlait français, en tout cas, au début du djihad antisoviétique, il a donné des interviews en français. On l'a entendu tout à l'heure. Donc effectivement, c'est un personnage qui, en plus, est francophone. Il est évidemment entouré de beaucoup de médecins français, les fameux French Doctors. Il y a énormément de journalistes français qui vont le voir, qui passent du temps avec lui. Donc forcément, en France, il devient un personnage médiatique très connu. Alors oui, on l'a idéalisé parce qu'on en a fait un personnage de légende, de roman. Bien sûr, c'était aussi un islamiste. Faut pas l'oublier. Hein. Il n'était pas républicain. Enfin, ou plutôt, s'il était républicain, il était plutôt pour la République islamique.
Ouais. T'es pas laïque.
Islamiste. Comment?
Pas laïque.
Pas laïque du tout. Les femmes au Panjshir sont voilées comme un très grand nombre. Faut pas penser que Massoud était un personnage libéral. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que à la fin de sa vie, m'ont dit des gens très proches de lui, il a sans doute encore évolué. En 73, il a fait une première, donc avant même l'invasion soviétique, il a fait une première insurrection dans la vallée du Panjshir, à l'époque où l'Afghanistan était une république. Donc idéologiquement, c'était un islamiste. Et à la fin de sa vie, avant sa mort, quelques années avant sa mort, il se présentait lui-même comme un islamiste modéré.
Tiens, pardon de vous couper, justement. On va voir comment il se présentait exactement, puisque vous me dites ça. En juin 2001, des parlementaires européens et français le rencontrent, lui posent des questions, notamment sur la condition des femmes. Écoutons ce qu'il répond. Juin 2001.
Êtes-vous favorable à l'égalité des droits pour les femmes? Êtes-vous favorable au fait qu'elles aient le droit de vote et qu'elles soient éligibles? Et auront-elles le droit à l'éducation?
Oui, dans la démocratie que nous allons instaurer en Afghanistan, les femmes auront le droit de vote, elles seront éligibles et elles pourront travailler et étudier.
Très concrètement, si vous étiez au pouvoir à Kaboul, que feriez-vous de M. Ben Laden?
Je vous dis très clairement que nous ne voulons pas voir l'Afghanistan devenir une base pour terroristes. Dans l'Afghanistan que nous dirigeons, il n'y aura aucune place pour les terroristes et pour Osama Ben Laden.
Pardon de vous avoir coupé, Bruno Philippe, mais c'était saisissant après vos propos d'en écouter l'écho qu'on vient d'entendre. Qu'en pensez-vous ?
Oui, ben, tout à fait. Alors, je souscris à cela aussi. Quand je dis que Massoud est un islamiste, oui, mais c'est aussi effectivement un modéré. Il est évidemment idéologiquement et même théologiquement opposé à l'obscurantisme taliban, dont la théologie, dont la vision du monde se limite à celle de l'imitation stricte du prophète. Ce n'est pas Massoud. Massoud est aussi quelqu'un qui lit de la poésie persane, il lit Hafez, il lit les grands textes de la poésie persane qui sont parfois politiquement assez incorrects. C'est un personnage évidemment qui a une certaine ambiguïté. Et puis surtout, c'est un Afghan. Je veux dire, on a projeté sur lui des catégories, comme souvent, qui n'étaient pas celles de l'Afghanistan. Donc, évidemment,
l'éternel problème.
Et d'ailleurs, on voit bien avec le désastre américain.
C'est exactement ça. Voilà.
Mais, c'est un.
Vous avez entendu qu'il prononce le mot démocratie.
Ah, mais je ne dis pas qu'il n'est pas démocrate.
Non, je ne dis pas non plus.
Tout à fait.
Démocratie.
Mais bien sûr, Massoud était quelqu'un qui croyait en la démocratie. Mmh. Alors, après, on peut discuter longtemps, la social-démocratie, la démocratie à l'afghane, quelle sauce tout ça.
On la met, oui.
Il faut quand même se rappeler qu'il a tout de même été au pouvoir, puisqu'en 92, il rentre dans Kaboul. D'ailleurs, je passe la soirée avec lui quelques jours avant qu'il arrive dans Kaboul. Le parti qui est le sien prend le pouvoir, mais immédiatement, la guerre civile éclate entre les différents partis de la résistance et surtout avec son ennemi juré, Gulbuddin Hekmatyar, qui est un intégriste sans doute le plus extrême en Afghanistan à l'époque. Mais il va quand même être au pouvoir. Il va avoir l'expérience du pouvoir. Alors, il ne sera pas président, il ne sera pas premier ministre, mais il sera ministre de la Défense. Il va toujours rester un militaire. Il n'aura pas les moyens. Je pense que ça aurait été le cas si jamais il n'avait pas été tué et si jamais les talibans avaient été vaincus.
Il aurait été ministre de la Défense, quoi.
Peut-être, non, justement. Peut-être qu'il aurait été un vrai leader de l'Afghanistan. D'accord. Mais hélas, il n'en a pas eu la possibilité, puisqu'il a présidé, si je puis dire entre guillemets, enfin disons qu'il a fait partie d'un gouvernement d'un Afghanistan en guerre civile.
Bien sûr. Alors, vous l'avez rencontré trois fois. Qu'avez-vous retenu du personnage ?
Un personnage au sourire chaleureux. Un personnage au regard rusé. En même temps, fuyant les questions, vous avez aussi rappelé que c'était un bon communicant et c'est donc dans les deux sens du terme, il sait communiquer et c'est aussi ce qu'il faut dire et c'est aussi ce qu'il ne faut pas dire et c'est aussi ce qu'il ne veut pas dire. Mm-hmm. Donc on a du mal à le pousser dans ses retranchements. Un personnage au demeurant assez sympathique, assez lointain. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai rencontré deux fois en Afghanistan, donc une fois avant sa prise de pouvoir, ou en tout cas la victoire de ses Moudjahidis. Je l'ai rencontré une deuxième fois lorsqu'il était ministre de la Défense. Et je l'ai rencontré une troisième fois, justement, lors de son séjour à Paris. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui poser une question philosophique, parce qu'il avait tellement lutté, et il avait tout perdu. Il avait tout perdu. C'était à la fin, lorsqu'il a été tué, il ne contrôlait qu'une poussière d'empire. Et alors je lui dis, mon commandant, je voudrais vous citer une phrase qu'aimait beaucoup le général de Gaulle, c'est une phrase d'un grand philosophe qui s'appelle Friedrich Nietzsche et qui disait « Rien, il ne se passe rien, mais cependant tout arrive et cela est indifférent ». Alors vous savez ce que c'est dans notre métier, c'est les questions les plus intelligentes qui amènent les réponses les plus décevantes, et vice-versa.
On devrait faire le contraire, poser alors, des questions idiotes.
Pour alors voilà, mais alors je vous cite quand même ce qu'il m'avait dit, parce que bon, c'était pas totalement dépourvu d'intérêt, ce que je lui avais dit, est-ce que vous songez à l'infinie tristesse des choses durant toutes ces défaites, ces massacres, ces morts. Il dit, je vais vous dire mon sentiment. La vie, que ça se passe dans la joie ou sans la joie, ça se passe. Chaque homme qui, en réfléchissant sur son passé, a l'impression d'avoir été utile, n'a rien à regretter. Moi, grâce à Dieu, je suis sûr du choix que j'ai fait, du chemin que j'ai suivi. J'en ai la certitude absolue. Oui, je n'ai pas de regrets. Oui, le temps s'enfuit, la vie passe, mais qu'importe.
Donc ça l'a probablement soutenu dans son combat, hein, cette conviction, cette réflexion. Donc c'est un intellectuel qui prend les armes, en quelque sorte.
Un intellectuel, Massoud. Je dirais peut-être pas ça, mais c'était quelqu'un qui effectivement, qui était, comme j'ai dit, il a étudié au lycée français de Kaboul. Donc c'était quelqu'un qui était évolué, qui était bien sûr. Alors un intellectuel peut-être. Non, disons en tout cas. Quelqu'un qui, comme je l'ai dit aussi...
Il a une vision du monde, et pas seulement des armes.
Il a une vision du monde, et il a une culture, notamment poétique, littéraire, etc.
Ses ennemis, Al-Qaïda, les talibans. Bon, la raison paraît assez claire. Les idées de Massoud ne correspondent pas au rigorisme religieux des deux autres. Elle est là, la ligne de fracture ?
Oui, oui, elle est là. Elle est là. Elle est aussi. Il a aussi une vision, encore une fois, qui est nationale. Il a beau être un Tadjik, il a une vision. En 92, lorsque le régime pro-communiste ou communiste s'est effondré, il y a eu toutes les ethnies de l'Afghanistan, en tout cas un certain nombre d'ethnies d'Afghanistan, celles qui s'étaient levées contre les soviétiques, ont voulu toutes réclamer leur part de pouvoir. Faut pas oublier que l'Afghanistan, depuis l'unification en 1747, était un pays qui était dominé par l'ethnie pachtoune et par les clans royaux du sud de l'Afghanistan. D'un seul coup, l'Union soviétique, l'invasion soviétique, la défaite soviétique avait pour conséquence que chacun revendiquait une part de ce nouveau pouvoir. Et Massoud a été celui qui a incarné ça, parce que précisément, il ne faisait pas partie de l'ethnie la plus importante. Alors évidemment, ça lui a valu beaucoup d'ennemis, et que Matiar est un Pashtoun.
Oui.
Al-Qaïda était donc allié avec les talibans, qui sont des Pashtouns, même si aujourd'hui ils ont considérablement élargi... Absolument, ils ont considérablement élargi leur soutien à d'autres ethnies.
Comment vivait-on, en Afghanistan, pendant le régime communiste ?
Ah, c'est une bonne question.
Mais oui, parce qu'on n'en parle jamais, évidemment, vu tout ce qui s'est passé après. Sauf que les malheurs de l'Afghanistan jusqu'à aujourd'hui viennent quand même de là.
Absolument.
D'accord.
Bon. Absolument.
Comment on vivait pendant ces années-là ?
Alors, ça dépend où. Moi, durant le régime soviétique, j'ai...
À Kaboul, on va dire.
Voilà. Alors, À Kaboul. À Kaboul, on vivait de manière étrange. C'était une ville qui était sous menace des roquettes des Moudjahidines qu'ils envoyaient depuis l'extérieur. Mmh. En même temps, les rues étaient parcourues de tanks, de véhicules blindés, c'était un pays en guerre. En même temps, on croisait des femmes en jupe dans la rue, je dirais pas en mini-jupe, mais je me rappelle avoir croisé des étudiantes en jupe jean, qui parlaient russe. On buvait de l'alcool, il y avait des mariages, il y avait des soirées, un petit peu d'ailleurs comme dans les années 60 où Kaboul était devenu une ville très occidentalisée, oui. Des nightclubs, etc. Alors là, évidemment, c'était pas la même ambiance, c'était quand même, alors, il y avait ça, puis il y avait évidemment cette ville était sous la poigne du RAD, qui était les services secrets afghans, l'équivalent afghan du KGB, et qui semait la terreur. Donc quand vous alliez chez des gens, en tant que journaliste, les gens avaient la visite du KGB local
juste après.
Voilà. Donc il y avait à la fois, comme dans beaucoup de pays soviétiques ou soviétisés de l'époque, il y avait à la fois une sorte de libéralisme sociétal.
Et de jouissance matérielle, avec ce qu'on avait, parce qu'il n'y
avait
pas beaucoup.
De jouissance matérielle relative. Et aussi l'imposition d'un pouvoir autoritaire très, 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 très dur.
Bruno Philippe, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Dark Side, Lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ring of a lawmaker. He's got the cures we need. People rejoice in that. They say how hard it's been and how easy it'll be. He's wearing the doctor's coat, but in his hand is the ring.
colors they used to see. And the light turns bleak, white red, and their lips go round instead. And now the crowd is naked on the ground. And now the crowd is naked on the ground. In front of the pile, the man drinks his solution, levels it up against the sun, a sick kind of ablution. The red glow in his face, making him look like the Son of God. His teeth are glistening, his hair is wild, his feet are stomping on the ground. He's wearing a doctor's coat, holding his hand as the wind of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, holding his hand as the wind of a lawmaker.
Bruno Philippe, l'Afghanistan d'aujourd'hui, les talibans, et cette question qui brûle les lèvres à chaque fois, pourquoi les talibans sont-ils entrés dans les grandes villes et à Kaboul sans coup férir, sans combattre? Est-ce qu'une partie de la population se sentait, je vais être choqué en disant ça, rassurée?
La population, en tout cas une partie de la population, comme en 1996 lors de leur première victoire, une partie de la population se sent soulagée.
Soulagée plutôt que rassurée.
Parce que la guerre est terminée. Enfin, oui. En tout cas, une phase de la guerre est terminée. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer désormais. On ne sait pas s'il va y avoir une opposition armée qui va se lever contre les talibans. Ça risque de prendre du temps, c'est pas... Mais effectivement, une partie de la population, je pense, se sent soulagée aujourd'hui. C'est un pays qui est en guerre depuis 40 ans. Ça ne cesse jamais. En 96, lorsque j'étais à Kaboul après l'arrivée au pouvoir des talibans, les gens étaient, c'était pour eux une... Alors, ils étaient alors, les gens des villes, bien évidemment, les gens éduqués, les gens qui ne partageaient pas la vision du monde des talibans, étaient effrayés parce qu'ils savaient que ça risquait de... l'imposition de l'austérité était pour eux une certitude qui était terrible. Et en même temps, on arrêtait de se prendre des bombes sur la figure. Kaboul était ravagé par... C'était Beyrouth, c'était une ville qui était coupée en deux parfois. Les combats avaient lieu en ville. Une grande partie de la ville a été totalement détruite durant la guerre civile. Donc évidemment, il y avait de quoi pour les gens de se sentir soulagés. Alors aujourd'hui, je pense que c'est... Je ne suis pas à Kaboul et je n'y suis pas allé depuis quelque temps, donc je ne vais pas parler à la place de mes confrères qui y sont en ce moment et qui savent mieux que moi ce qui se passe, mais je pense que oui, il y a un certain degré de soulagement. La grande différence avec 96, c'est que depuis une vingtaine d'années, il y a eu l'éclosion d'une véritable classe moyenne, de gens qui n'ont jamais connu les talibans, des gens et des femmes qui sont allés à l'université, qui sont devenus journalistes, avocats, militaires, policiers, etc. Pour eux, évidemment, pour des gens de 20, 25, 30 ans, c'est absolument, c'est l'ordre noir qui
oui, parce qu'en plus, c'est les plus menacés.
C'est les plus menacés. Et l'espoir d'un nouvel Afghanistan post-Ben Laden, c'est le désespoir taliban saison 2.
Ouais. Justement, la vision du monde des talibans, de leur révolution islamique, si on peut dire comme ça, leur État islamique, elle est endogène, c'est-à-dire qu'ils veulent un État islamique en Afghanistan. Ils ne pensent pas exporter leur révolution, entre guillemets, contrairement à Daesh.
Absolument.
Je me trompe, non, c'est ça?
Absolument, vous avez tout à fait raison. Les talibans ont une vision nationale, ils ont un projet national d'imposer donc cet émirat islamique d'Afghanistan qui s'inscrit... en faux, si je puis dire, contre la République islamique d'Afghanistan de Massoud. Hein, donc on est passé de la République à l'Émirat.
Oui.
Mais ils n'ont pas une vision internationaliste du djihad telle que l'ont Al-Qaïda et bien sûr l'État islamique.
D'où aussi le conflit.
D'où le conflit entre, absolument, tout le conflit entre les talibans et l'État islamique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens chez les talibans, parce qu'on entend parfois des gens qui disent « Nous irons porter le djihad à l'étranger, tout le monde entier deviendra musulman ». Mais ça, c'est le taleb de base qui éructe. Mais la vision, en tout cas pour l'instant, politique des leaders des talibans, ce n'est pas de porter le sabre du djihad dans la plaie des, comment dirais-je, des voisins impies ou autres.
Oui, contrairement à Daesh. Et que représente l'Afghanistan maintenant pour les musulmans fondamentalistes partout dans le monde? Est-ce que c'est un laboratoire, un modèle, un contre-modèle? Pour Daesh, c'est ce qu'il ne faut pas faire, justement. Mais pour les autres, est-ce que oui, ça reste une référence aujourd'hui.
Je pense pas. Et puis, comme vous savez, le monde musulman, le monde arabo-musulman est tellement varié,
tellement divers, bien sûr.
Que bon, l'Indonésie, puisque je viens de faire un livre sur l'Indonésie, ben l'Indonésie, c'était en tout cas, ça a été un peu wahhabisé, islamisé de manière moderne, si je puis dire. Mais c'était un islam extrêmement, on appelait ça l'islam de l'archipel. Donc un islam beaucoup plus doux. Donc je crois pas que les talibans aujourd'hui, pour les Algériens, pour les Éthiopiens, pour les Indonésiens,
oui, c'est ça, ma question,
ou les Pakistanais, je ne crois pas qu'ils représentent un modèle.
Est-ce qu'ils ont changé, comme ils disent?
Je ne sais pas. Ils disent que oui. Ils sont dans une opération de communication, ils sont dans une opération de relations publiques avec l'international. Ils savent qu'ils ont besoin. Vous savez qu'aujourd'hui, la Banque mondiale vient de leur couper les crédits. La Banque centrale afghane, l'Afghani, la monnaie nationale, est au plus bas. Enfin, et encore, ça vient de le dire. Donc, ils ont besoin tout de même de soutiens internationaux. Maintenant, on a vu immédiatement après la chute de la ville, les Russes et les Chinois s'engouffraient dans la brèche. Donc, les talibans ont besoin, donc ils ont une volonté aujourd'hui d'apparaître comme plus modérés qu'ils ne l'étaient il y a 25 ans.
Donc, toute dernière chose, votre livre. Pourquoi l'Indonésie, au-delà du fait que ce soit le premier pays musulman du monde?
J'ai habité en Asie du Sud-Est pendant assez longtemps. J'étais correspondant du Monde basé à Bangkok. Donc, l'Indonésie, je couvrais cet archipel depuis de longues années. Et là, j'ai fait un voyage très long qui m'a emmené dans les extrêmes orient de l'archipel. Et j'ai poursuivi à la fois les ombres de ce pays où finalement des minorités ethniques, des sociétés sont en train de disparaître, avalées, comme je le dis, dans le grand entonnoir de la mondialisation. Et j'ai aussi voyagé sur des terres de grande poésie, des terres d'îles sous les volcans, ces horizons lointains qui sont aujourd'hui peut-être parmi les terras, non pas incognita, mais en tout cas les bouts du monde plus remarquables de l'Asie. C'est donc un voyage d'ailleurs très personnel, mais aussi un voyage à la poursuite de la poésie des choses.
Eh bien, vous nous invitez à le lire, ce livre. Et on va le faire. Merci en tout cas, Bruno Philippe.
Merci
infiniment.
Beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles, aujourd'hui, le commandant Massoud, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Théo Gomard.
Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission, actuellement au Tristan Bernard à Paris.